Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs, auditrices et amoureux du magazine Bana Okapi. Ce programme de jeunes traite des sujets liés à la santé, l'environnement, la protection de l'enfance, l'éducation et l'entrepreneuriat. Plusieurs centaines d'enfants déplacés en âge scolaire en errance dans la ville de Bounia s'livrent à la drogue au quotidien, rapporte Radio Okapi. Ces enfants utilisent de l'essence ou de la colpatex pour se droguer en aspirant l'odeur de ces produits. Questionnés par un reporter de Radio Okapi, la plupart d'entre eux affirment que cela leur permet de vaincre la faim, la peur et le froid. Mais quelles conséquences ce produit auront sur la santé de ces enfants dans l'avenir? Quelles solutions apporter à ces enfants pour les occuper et assurer une bonne prise en charge? Éléments de réponse tout de suite dans ce magazine que je vous recommande de suivre. Moi, c'est Sarah Sumbela. Polydor Basunga assure la mise en onde, une réalisation de Stanislas Diomi et Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matsuaki Mofelele Dijano. Et nous commençons tout de suite. Commençons notre magazine à Bounia, puisque le fait se passe justement dans cette ville. Plusieurs centaines d'enfants déplacés en âge scolaire en errance dans la ville de Bounia, en Ituri, s'livrent à la drogue au quotidien. Ils utilisent de l'essence ou de la colpatex dont ils aspirent l'odeur. La plupart d'entre eux affirment que cela leur permet de vaincre la faim, la peur et le froid. Le Parlement d'enfants de l'Ituri affirme que c'est toute une génération d'enfants qui risque ainsi d'être détruite et constituée en même temps une bombe de retardement pour la société si rien ne fait. C'est un reportage signé Sadiki Aboubakar.
Ils sont partout dans la ville. Ils marchent souvent en groupe de 3 ou plus. Ils demandent de l'argent et de la nourriture à tous les passants, généralement devant des magasins, supermarchés, les banques, etc. Ils circulent toujours avec des petites bouteilles en plastique collées aux narines. Il s'agit en fait de l'essence ou de la colpatex dont ils aspirent l'odeur pour se droguer. Cet autre enfant a 10 ans. Pour lui, la drogue lui permet de vaincre la faim, la peur et le froid de la nuit.
Dans un état d'ivresse, je ne ressens plus du froid la nuit. Mes parents ne sont pas au courant. Je fume seulement en ville et lorsque je rentre dans les sites auprès de mes parents, je cache le reste que je vais reprendre le lendemain matin.
Il existe dans le groupe un autre enfant de 10 ans, mais qui ne se drogue pas encore.
Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à traîner avec eux, mais moi, je ne me drogue pas. Je sais que cela détruit la santé et je les interdis chaque fois de fumer, mais personne ne m'écoute.
Richardine Pitoua, présidente du Parlement d'enfants de l'Ituri, déplore cette situation. Elle appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à s'impliquer pour sauver l'avenir de ses enfants. Céline Lucinde, chef de bureau de la protection de l'enfant au sein de la division provinciale des affaires sociales en Ituri, affirme que le gouvernement et ses partenaires ont pris plusieurs initiatives en vue de répondre à ces problèmes. Mais cela nécessite l'appui des parents dans les sites.
Les réponses qu'on donne, il y a la réinsertion scolaire, les rattrapages scolaires et l'apprentissage des métiers. Mais ce qu'on a constaté, on peut réinsérer les enfants à l'école, mais les parents ont tendance à montrer aux enfants que mieux vaut venir dans la rue que d'aller à l'école. Chers parents, être déplacés, ça ne nous prive pas nos responsabilités. Prenons nos responsabilités en main pour le bien-être de nos enfants.
Si rien n'est fait pour arrêter ces phénomènes, même après la guerre en Ituri, cette génération d'enfants ne pourra plus être sauvée, estime un observateur. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Plusieurs centaines d'enfants déplacés en âge scolaire en errance dans la ville de Bounia, en Ituri, se livrent à la drogue au quotidien. Et par rapport à cette problématique, de nombreux parents estiment que ces enfants sont délaissés et constituent une bombe à retardement si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il s'exprime au micro de Ezekiel Mousalia.
Oui, toutefois, nous regrettons vraiment ce phénomène des enfants dans la rue, parce que ces enfants souffrent. Ils souffrent, ces enfants sont des orphelins, des parents vivants. Il y a des parents qui sont incapables. Et tout ça est causé par les atrocités de la guerre ici, que nous avons connues en Ituri. Mais toutefois, ces enfants ne méritent pas tout ça. Toutes ces souffrances-là, ils ne méritent pas ça. Alors, ce que nous allons demander au gouvernement est de s'arranger, de s'organiser en tout cas, de prendre ces enfants en charge. Et si nous qui sommes des parents aussi, nous devons passer à ces enfants. Surtout leur éducation. Nous ne mettons pas au monde les enfants pour souffrir. Ça nous fait du mal quand on doit voir un enfant vraiment passer la nuit à l'extérieur, avec des fouins, parfois affamés, et voir les situations vraiment, ça fait du mal. Mais que faire? On est parfois incapable parce que nous aussi, on a des maisons. Nous avons des gens qui nous gèrent à la maison, mais vous allez voir des enfants là. Et puis, si on s'est donné de ces enfants-là, on va aider combien d'enfants? Ils sont vraiment nombreux, ainsi de suite.
C'est à cause de la guerre, des troubles dans des villages, par-ci, par-là, que l'État ne parvient pas à maîtriser la paix dans tous les villages. Alors, cela nous fait de mal à voir ces enfants dans la rue, par-ci, par-là, fumer, se droguer, faire n'importe quoi, commander, tout ça. C'est du mal. Ils dorment toute la nuit à l'extérieur, comme ça. À l'abri de cet apéri, ça nous fait de mal. Or, les droits de l'homme, les droits de l'homme est ici sur place à Bounia. Ils devaient prendre soin de ça, parce qu'ils ont pour une mission d'œuvrer en faveur des vulnérables. Ils devaient mettre cela à vigueur afin que ces enfants puissent avoir leurs droits, droit à vivre. Parce que la loi prévit les droits de tous.
Alors, en tant que parent,
ouais,
comment vous sentez dans votre peau? Parce qu'aucun parent ne peut souhaiter voir son enfant déambuler dans la rue et tout. En tant que parent, comment vous sentez quand vous voyez ces enfants?
C'était mieux pour nous, les parents, de faire un effort très sérieux pour récupérer nos enfants qui sont dans la rue. Faire des efforts très sérieux. Alors, si un parent se fatigue de chercher son enfant, ce n'est pas bon. Je dois faire de l'impossible pour que mon enfant passe la nuit chez moi à la maison, qu'il mange à la maison. C'est obligatoire pour tout parent.
Comment oui. Le gouvernement peut aider, par exemple, à soutenir des petits projets, des centres de métiers, des centres d'encadrement? Comment le gouvernement peut rendre encore ses enfants utiles? Parce que vous voyez, même avec ce qui se passe à Kinshasa, les phénomènes Kuluna. Donc, voyez un peu, comment le gouvernement peut faire pour changer la situation?
Bon, dans ce point-là, je n'ai pas assez à dire. Seulement s'ils pouvaient encadrer les villages pour que la population retourne dans leurs villages respectifs, ça serait mieux. Alors, à ce moment-là, ils peuvent retirer leurs enfants et retourner dans leurs villages. Alors, ça pourrait être mieux. Mais pour ce qui est de l'encadrement par le gouvernement, bon, je n'ai pas assez d'arguments pour ça, mais je ne sais ce que l'État peut faire.
Merci.
Ouais. Tournons-nous du côté des autorités de la ville de Bounia. Connaissent-ils cette situation? Ont-ils un plan pour venir en aide à ces enfants? Ezekiel Mousalia reçoit pour vous Madame Céline Lucinde, la responsable de service à la division des affaires sociales d'Elitori. Elle répond à ces quelques questions et à bien d'autres encore.
Madame Céline Lucinde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable, la chef du bureau protection de l'enfant en Ituri. Mmh. D'abord, pour planter les décors, dites-nous quelle est la situation des enfants dans la province de l'Ituri actuellement.
Oui. Merci beaucoup, cher Ezekiel. Dans la province de l'Ituri, les enfants Le problème de la protection des enfants, c'est un peu catastrophique. Parce que nous avons beaucoup de problèmes de protection des enfants. Entre autres, il y a des problèmes forts, tels que les enfants associés au groupe et forces armées, ce qu'on appelle les enfants Yaga. Il y a les enfants en situation de la rue. Il y a les kidnappings des enfants aussi qui bat record ces derniers temps. Et autres problèmes. Et il y a les enfants victimes de viols, des violences en général, là où il y a les mariages précoces, les filles enceintes, il y a aussi les cas de viol. C'est vraiment, c'est à la île, à la province de l'Ituri, et autres problèmes de protection qu'on ne peut pas énumérer ici, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de protection des enfants. Et tout ça est lié au conflit que nous avons dans la province de l'Ituri et surtout dans les trois territoires, Mambasa, Irumu et Djougou, et aussi un peu à Mahagi.
Alors, aujourd'hui, on peut savoir c'est combien d'enfants qui sont affectés par les conflits qui perdurent et qui continuent dans la province.
Je vais me réserver concernant la statistique, parce que pour que je puisse me prononcer à ce qui concerne la statistique, j'entends la validation des rapports de OCHA. Si je ne suis pas encore en possession de ça, je ne peux pas m'hasarder de dire une statistique. Ouais, mais à la prochaine occasion, je te répondrai avec certitude que le nombre des enfants victimes des conflits de l'année 2024.
Alors, comment vivent ces enfants ?
Ici à Bounia, tout comme dans les différents territoires, les enfants ont une vie précaire. Vous-même, vous êtes rentré de voir le phénomène des enfants en situation de la rue, qui est un problème de nous tous. Parfois, la communauté pense que c'est un problème des affaires sociales avec ses partenaires, y compris le gouvernement provincial. Mais les thématiques problèmes des enfants à situation de la rue, c'est le problème de nous tous. À commencer par la famille, parce que c'est la famille qui est le premier acteur principal de l'enfant pour sa protection. Sa communauté et nous autres, on intervient pour dire que c'est une situation très précaire. Et moi, je dis toujours, c'est une bombe à retardement. Moi, j'ai la peur que j'exprime toujours dans les différentes chaînes de radio, c'est la peur de Kuluna, Kinshasa. Ça avait commencé aussi petit à petit, comme les enfants en situation de la rue. Et aujourd'hui, on a le phénomène Kuluna, que même le gouvernement ne sache plus maîtriser la situation. C'est ça la peur que j'ai. Mais moi, je me dis toujours, si tout est chacun puisse prendre conscience et contribuer à sa manière pour lutter contre les phénomènes en face situation de la rue, on aura un travail bénéfique. Parce qu'il y a un adage qui dit « ensemble, c'est possible ». Mais si on a toujours cette tendance à voir les affaires sociales, ses partenaires et le gouvernement, ça sera comme un cercle vicieux. On donne une réponse aujourd'hui et demain, on rentre au point de départ.
Oui, ces enfants sont dans la rue depuis 2017, et dont certains, bien évidemment. Et leur situation devient de plus en plus dramatique. Ces enfants, on peut dire, Madame Céline, ces enfants viennent d'où ? Est-ce qu'il y a un programme pour identifier la provenance de tous ces enfants, leur famille, comment ils vivent et qu'est-ce qui fait à ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans la rue?
Oui, comme je vous ai dit en amont, la division des affaires sociales, dans son service de la protection de la France, nous les faisons. Moi-même, je chapeaute ça. On a une base de données pour savoir la provenance, l'identité de l'enfant, de sa famille et tout. C'est ça pour ça de ces enfants-là. 90%, ce sont les enfants déplacés des guerres dites au conflit armée que les Tours connaissent depuis l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et les 10%, ce sont les enfants de la communauté de Bounia et territoriale. Parce que le phénomène enfant situation de la rue, ce n'est pas seulement ici, dans la ville de Bounia. Ça commence à se développer petit à petit dans des différents territoires. Et là, il y a des différents problèmes de protection. Parmi ces enfants, il y a les enfants non accompagnés. En fuyant, l'enfant se retrouve seul ici à Bounia. Il est accueilli par d'autres enfants qu'il a trouvés dans la rue. Et lui aussi fait de la rue sa deuxième famille. Parmi ces enfants, il y a les enfants qui quittent chez eux le matin dans des différents sites de déplacés de la ville de Bounia et ses environs pour venir dans la rue. Auparavant, ils venaient commander et rentrer le soir. Mais aujourd'hui, bon nombre de ces enfants commencent à passer la nuit dans la rue.
Mais ils ont des familles, ils ont des parents.
Ils ont des parents, ils ont tout ici, à Bounia, dans des différents sites, même dans la communauté et dans des périphéries. Il y a d'autres enfants victimes de séparation des parents. Avec la marâtre, ça ne marche pas. Ils se retrouvent dans la rue. Il y a les enfants dissociés. Il y a les enfants que seulement l'entourage, l'éducation du fils, l'enfant qui a par malchance avait eu des mauvais compagnies, on l'influence et l'influencé par ses amis, il se retrouve dans la rue. Donc là-bas, il y a beaucoup de sources. Chaque enfant a son problème spécifique pour qu'il puisse se retrouver dans la rue.
Ces enfants se livrent à des actes, je peux dire, barbares. Oui. Certains à la toxicomanie, il y a d'autres justement, hein. Il y a même des fillettes qui sont parmi ces enfants-là, qui sont dans la rue des Bounia. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que responsable du bureau chargé des protections des enfants, en voyant ces petits enfants dans la rue?
Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et toujours, je dis que ça me fait trop mal. Parce que moi, chaque enfant compte. Ces enfants-là, c'est le Congo de demain. Et parfois, je me demande quel genre de Congo on aura dans l'avenir. Parce que si tu vois, bon nombre des adolescents aujourd'hui, pas seulement les enfants en situation de la rue, je profite de l'occasion pour essayer de révéler la conscience des parents, commencent à se droguer, à faire des choses qui nuisent à leur santé, à leur mental, à leur avenir. Et ce n'est pas dit que nous croisons les bras. Chaque année, on y travaille. Là, quand je dis on y travaille, c'est-à-dire la division des affaires sociales, en partenariat avec UNICEF, son partenaire de chaque jour, et aussi autres partenaires qui œuvrent dans la thématique enfants en situation de la rue, y compris les gouvernements provinciaux aussi ne croisent pas les bras. Parce que bien sûr, c'est le gouvernement, et ici nous sommes représentés par le gouvernement provincial, c'est lui qui a l'obligation de chercher les voies et moyens pour pallier à ces phénomènes enfants en situation de la rue. Je profite pour vous signaler que le gouvernement provincial a acheté un terrain qu'il a donné à la division des affaires sociales, là où il y a un partenaire, Enabel, qui va construire un CTO moderne pour ses enfants.
CTO, ça veut dire?
Centre de transit et orientation moderne concernant les enfants à situation de la rue et autres enfants en problème de protection. Pourquoi? Parce que, pour vous montrer qu'ils ne croisent pas les bras. Mais moi, je vais m'adresser particulièrement aujourd'hui au gouvernorat provincial. Merci. Toujours la division des affaires sociales, vous serez très reconnaissant pour ça. Mais ils demandent autre appui à part l'achat des parcelles. Parce que pour résoudre les problèmes là, ce n'est pas seulement les partenaires UNICEF et autres, et nous, le gouvernement, on a vraiment une responsabilité incontournable. Ensemble, le gouvernement provincial à travers la division des affaires sociales, parce que c'est lui quand la division des affaires est là, il travaille, c'est le gouvernement provincial qui donne des réponses, qui soit toujours là, disponible pour qu'on puisse ensemble accompagner les partenaires qui nous appuient dans les thématiques enfants en situation de la rue. Je voulais m'atteler à ce qui concerne les parents. Et surtout, comme je le dis toujours et je le répète, les parents déplacés. Être un déplacé, ça ne t'épargne pas de la responsabilité d'un parent envers sa famille. Un parent envers ses enfants. Les enfants ont les droits. Être déplacé, ça n'exclut pas les droits des enfants. Les parents déplacés, prenez vos responsabilités à main. Travaillez avec la division des affaires sociales, avec les partenaires qui travaillent dans ces thématiques, pour qu'on puisse ensemble, on puisse pallier à cette situation. Parce que ça devient pour nous comme un cercle vicieux. Aujourd'hui, vous réunifiez les enfants auprès de leur famille, demain les parents demandent aux enfants rentrer dans la rue pour demander afin que nous puissions vivre. Les parents, si vous sillonnez aujourd'hui les sites de déplacés, les parents sont en train de jouer au jeu des dames et consorts, ils croisent les bras et ils savent que vers 17h, je vais me croiser quelque part avec mon enfant qui se trouve dans la rue et qui court tous les risques possibles pour qu'il puisse me donner la ration. Un enfant de 2 ans qui devient un enfant chef de ménage. Et aussi, je profite de l'occasion pour interpeller la mairie et le gouvernorat provincial de la province de Litouri. Ensemble avec la division des affaires sociales, cette année, on va développer autre mécanisme qui va faire inciter la conscience des parents déplacés de guerre pour les faire revenir à la raison pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Amen.
Madame Céline Lucindé, je vous dis merci.
Merci beaucoup, Ezekiel.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ceux qui nous prennent encore de diffusion. Sachez que ce programme est un programme de Radio Okapi pour les jeunes et les plus jeunes, financé par l'UNICEF. Il s'agit aujourd'hui des centaines d'enfants déplacés dans la ville de Bounia qui se livrent à la consommation de la drogue pour vaincre la faim, le froid et la peur. En effet, la ville de Bounia a réussi depuis plus de 7 ans 11 700 déplacés qui vivent sans assistance dans les sites de l'ISP à Bounia en Ituri. Ces personnes ont fui les exactions de miliciens dans les territoires de Djougou. Dans cette ville abandonnée à leur triste sort, ils font tout ce qui est possible pour survivre. Quel est l'avenir pour ces enfants qui se retrouvent dans ces conditions, mais aussi quel danger courent-ils en consommant de la drogue? Toutes ces questions trouvent de réponses dans cette deuxième partie du magazine Bana Okapi. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Soumbela. La mise en onde est assurée par Polydor Basunga. Gisèle Cage et Stanislas Diomi réalisent ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Amatouakimo Felele Dijanon. Cette seconde partie s'ouvre sur une note de bonne humeur. À...
Radio Okapi.
Plusieurs centaines d'enfants déplacés en âge scolaire en errance de la ville de Bounia, en Ituri, se livrent à la consommation de la drogue au quotidien. Quelles sont les conséquences de la drogue sur la santé? Le docteur Lukusa Jean-Luc est au micro de Jeff Opela.
Docteur Lukusa Jean-Luc, bonjour.
Bonjour monsieur.
Docteur, aujourd'hui nous parlons de la prise des drogues par les jeunes. Quelles en sont les conséquences? En l'occurrence, une centaine de jeunes déplacés en âge scolaire se livrent aujourd'hui à la drogue au quotidien. Ils utilisent donc l'essence mélangée avec la colpatexte dont ils aspirent l'odeur par les chichas. La plupart d'entre eux affirment que cela leur permet de vaincre la faim, la peur, le froid. Et d'autres aussi disent que ça change d'humeur. Que pensez-vous de cette affirmation?
Bon, déjà, je veux dire que la drogue a des conséquences néfastes sur la santé des êtres humains. La fumée que vous aspirez va directement dans les poumons et ce sont les premiers organes qui sont atteints. Vous n'avez pas que le poumon, vous avez l'œsophage, ça passe aussi dans le tube digestif. Et plus tard, vous allez développer des pathologies pulmonaires, entre autres, peut-être un cancer des poumons ou un cancer de la gorge. Donc, ce sont des pratiques qu'il faut décourager chez les jeunes parce qu'eux ne comprennent pas pendant qu'ils les prennent. Ils ne voient pas directement les conséquences, mais les conséquences sont à venir.
Docteur Louk Saint-Jean-Luc, est-ce qu'il y a aussi des conséquences sur le plan mental en prenant ces drogues?
Oui, je vous ai dit que les conséquences sont un peu plus variées. Ils touchent plusieurs organes au niveau de l'être humain. Et au niveau psychologique, plus vous êtes en train de vous avilir dans la drogue, plus la concentration peut diminuer, plus vous pouvez avoir des comportements bizarres dans la société. Et cela peut entraîner des conséquences néfastes allant jusque parfois même à devenir fou ou bien à devenir inutile pour la société. Voilà.
Comment peut-on faire pour les décourager?
Bon, tout commence d'abord par la sensibilisation, comme vous êtes en train de le faire. C'est un bon travail et la sensibilisation concerne toutes les couches de la population. Donc, sensibiliser les responsables de ces jeunes au niveau administratif ou au niveau familial aussi. Sensibiliser dans des écoles, créer des groupes de soutien. C'est parce que ces jeunes manquent quoi faire qu'ils se livrent maintenant à des pratiques qu'ils considèrent comme étant peut-être des alternatives. Donc, il faut chercher des voies et moyens pour occuper ces jeunes afin de les éviter de tomber facilement dans la drogue.
Il faut les éviter de tomber facilement dans la drogue, docteur, par rapport aux parents.
Donc sensibiliser toutes les couches, commencer par les parents, commencer par les administratifs, dans les quartiers, chercher des groupes ou des associations qui peuvent aider à ce qu'il y ait peut-être une organisation de soutien et leur faire comprendre les complications et les conséquences de ces pratiques. Et cela peut maintenant les amener à commencer à éviter la drogue.
Voilà. Mes auditeurs, jeunes, vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur prodiguer comme conseil et aussi aux parents s'il le faut?
Voilà, d'abord aux parents, je voudrais leur faire prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Ils ont mis au monde non pas pour abandonner, mais c'est pour encadrer surtout les jeunes adolescents. C'est une responsabilité qu'ils ont d'éduquer, de conseiller les enfants. Et aux jeunes, je leur demande de comprendre que l'avenir est entre leurs mains et s'ils doivent se livrer aux pratiques qui les détruisent de manière systématique, ils vont comprendre qu'ils n'auront pas d'avenir. Pourtant, ce sont eux qui doivent plus tard tenir la survie du pays. Donc, ils doivent déjà prendre conscience qu'ils sont l'avenir du pays et tout acte qu'ils doivent poser, ils doivent assumer les conséquences. Donc, déjà, éviter à prendre la drogue pour espérer vivre longtemps. C'est ça le conseil que je peux donner aux jeunes.
Et à l'État congolais?
À l'État congolais, c'est juste de créer des emplois et créer des moyens, des voies et moyens pour pouvoir amener ces jeunes à exercer. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils se retrouvent dans la rue. C'est la responsabilité de l'État de pouvoir les encadrer, de pouvoir leur trouver quoi faire ou de les orienter. Voilà ce que je peux dire pour l'État.
Merci docteur Jean-Luc Loukoussa d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Okapi.
Quels sont les effets de la drogue sur le cerveau? Est-il possible que les enfants qui en consomment développent de comportements violents? Stanislas Diomi reçoit pour vous le psychologue Nera Chanera.
Monsieur Nera Chanera Kalinda, bonjour.
Bonjour Monsieur Stanislas.
Vous êtes psychologue social et des organisations. Aujourd'hui, Bana Okapi parle de la drogue à la place de la nourriture pour les enfants déplacés à Bounia et quelles conséquences pour leur santé. Et ces enfants de la ville de Bounia qui consomment l'essence et l'école comme drogue disent le prendre pour vaincre la faim, le froid et la peur. Qu'est-ce que représente cette drogue pour les enfants, vous en tant que psychologue?
Bien évidemment, comme vous savez, dans la vie de chaque individu, c'est que nous sommes caractérisés par des besoins physiologiques qui nécessitent d'être satisfaits dans l'immédiat, et notamment le besoin de la faim, le besoin de boire, le besoin de sommeil, et qui s'ensuit encore à un deuxième niveau par le besoin de sécurité et de paix. Et chaque individu, comme toujours, a toujours l'instinct et même les réflexes de pouvoir chercher de quoi se nourrir. Et ces réflexes, bien évidemment, que chez l'enfant, consistent à aller vers son tuteur ou son parent qui les prend en charge, et, tandis que ces derniers a lui cette responsabilité de pouvoir nourrir les enfants et tout ce qui va avec. Et comme vous le constatez que dans notre pays en général et particulièrement à Bounia où il y a ces enfants qui ne sont pas réellement pris en charge, dû à certains facteurs par rapport à la précarité de la sécurité, à la précarité socio-économique dont la pauvreté, et ce qui fait en sorte que les parents ou les adultes n'ont pas assez de possibilités ou d'aptitudes pour pouvoir assurer les besoins physiologiques dont la faim, satisfaire la faim et aussi satisfaire le besoin de la soif. Et c'est comme ça que certains enfants sont destinés par l'instinct de survie à pouvoir soi-même se nourrir. Et pour se nourrir, dès lors que l'enfant ne trouve pas à manger de manière conséquente, il est très évident que cet enfant tombe dans ce qu'on appelle la toxicomanie, qui est la consommation de la drogue. C'est un comportement psychologiquement normal et observable dans des conditions où des facteurs, comme je viens de le dire tantôt, amènent l'enfant à pouvoir le consommer. Et même si cette influence peut être due à certains amis qui amènent les autres à consommer, mais aussi lorsqu'on n'a pas d'issue favorable, on se laisse à la toxicomanie dans le but de pouvoir assouvir le besoin de la faim et même le besoin de boire.
Et est-il possible que la drogue remplace le besoin de nourriture dans l'organisme?
La drogue ne remplace pas le besoin de la nourriture. Mais le comble, c'est que la drogue a toujours, dans la plupart des cas, un stimulant qu'on appelle la nicotine, qui est ce produit qui affecte la cellule du cerveau qui est la dopamine. Or, la dopamine, c'est une cellule de satisfaction, c'est une cellule de motivation, c'est une cellule d'apprentissage, c'est une cellule de plaisir et de déplaisir. Et dès lors que la drogue consommée affecte le cerveau à travers la dopamine, cela va créer l'accoutumance ou l'addiction à la drogue. Et c'est cette addiction à la drogue qui donne l'impression à l'enfant que il peut satisfaire son besoin de la faim par la prise de la drogue. Mais réellement, en réalité, la drogue ne remplace pas la nourriture parce que la nourriture te permet de se rassasier, t'apporte des protéines, t'apporte des vitamines et te permet de pouvoir avoir de la force et des énergies possibles. Mais ce n'est pas le cas pour la drogue. La drogue ne vient que tout simplement dire à ton cerveau à travers la dopamine que tu es satisfait et que cette illusion, en fait, de pouvoir satisfaire la faim par la drogue se développe dans ton cerveau. Et c'est ce qui fait en sorte que l'enfant a l'impression de pouvoir remplacer la nourriture par la drogue. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement les mécanismes du cerveau qui est modifié par le fait que la dopamine est affectée par l'effet de la drogue. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a l'accoutumance et l'addiction. Donc, il y a ces besoins contrôlés, cette envie pressante de pouvoir le consommer. Et lorsqu'on ne consomme pas, on n'est pas à l'aise. Donc, on n'est pas vraiment aisé. Et d'ailleurs, c'est un peu comme l'effet de pouvoir croire que on est rassasié, mais en réalité, on ne l'est pas. Et ce qui fait en sorte d'ailleurs que ces enfants ont des problèmes de santé physique et des santé, des problèmes aussi biologiques, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'énergie capable de leur assurer la sûreté de leur santé biologique ou physiologique.
Et avec cette consommation de la drogue, les enfants ne risquent pas de développer des comportements violents et des comportements qui risqueraient de causer l'insécurité dans la ville de Bounia?
Ça, c'est évident. Vous savez, la drogue a toujours des conséquences et ces conséquences aussi sont des conséquences sociales parce que chaque individu, et particulièrement l'enfant, est appelé à pouvoir interagir en harmonie, être en interaction avec tout le monde au sein de la société, au sein de son environnement. Or, pour vivre en harmonie avec les autres, il faut être dans un état psychologique ou émotionnel stable, et ce qui permet de pouvoir agir, interagir avec tout le monde, ce qui permet de pouvoir contrôler nos comportements, nos caractères, ce qui nous permet plutôt de distinguer les interdits et les valeurs acceptées par la société. Mais lorsque nous consommons de la drogue et que l'addiction nous caractérise, il est difficile qu'on puisse mieux interagir avec les autres. Nous avons des conséquences qui nous amènent parfois à la violence. Il y a de ces conséquences qui nous permettent plus de pouvoir distinguer les biens et les mal, distinguer les valeurs communes adoptées par la société. Et ce qui rend parfois les consommateurs ou les toxicomanes agressifs. Et cette agressivité vient aussi par le fait qu'on ne contrôle plus réellement notre cerveau, on ne contrôle plus réellement nos comportements, on agit que de manière dont la drogue est en train de nous conduire.
Et en parlant des conséquences, est-ce que cela a des conséquences sur le cerveau?
Oui, il y a des conséquences sur le cerveau parce que la dopamine, c'est cette cellule, bien entendu, qui régule la motivation d'une personne, c'est ce qui régule le désir de l'apprentissage, c'est ce qui régule les plaisirs et les déplaisirs. Et pourtant, les affects d'une personne sont au centre de la vie. On ne peut pas pouvoir vivre sans être satisfait ou insatisfait par rapport à un besoin donné, par rapport à une tendance, par rapport à ce que nous observons plutôt, nous vivons au sein de la société. Et lorsque la dopamine ne se régule plus normalement, quitte à l'addiction à la drogue, les cerveaux est désorienté. Déjà la nuit, nous aurons à vivre des insomnies, ça nous amène parfois à la dépression, ça amène parfois à la psychose et même à la névrose, et ce qui ne permet pas à la personne de pouvoir mieux se contrôler. Et pourtant, le cerveau est le moteur de la vie d'une personne. Encore que le cerveau a une partie végétative qui est une partie autonome, et cette partie dépend de la sensibilité de ce qu'on observe à l'extérieur. Et dès lors que nous sommes accros à la drogue, les cerveaux végétatifs ou la partie végétative du cerveau ne fonctionne plus normalement parce que on ne ressent plus de la même manière toutes les sensibilités de l'extérieur, et ce qui amène parfois aussi à des comportements agressifs ou non conformes à ceux admis par la société.
Et comme vous le savez, Monsieur Nera Chanera, les enfants qui se droguent dans cette ville, leur âge varie entre 10 et 17 ans, mais est-ce qu'est-il possible de récupérer ces enfants sur le plan psychologique?
Oui, il est très possible de pouvoir récupérer, et cela ne nécessite pas la catégorie d'âge, parce que peu importe la catégorie d'âge, il est possible de pouvoir récupérer un toxicomane, et cela passe bien entendu par un mécanisme de sévrage qui va permettre à la personne de pouvoir arrêter la drogue, et cela va passer par un diagnostic psychologique parce qu'il faut suivre une thérapie appropriée et ce qui est d'ailleurs orienté par rapport à la raison ou la réalité vécue par chaque toxicomane, bien qu'il soit enfant. Et il y a des méthodes, bien évidemment, de groupe, des méthodes de thérapie des familles, des thérapies systémiques qui permettent à l'enfant d'être récupéré, de pouvoir être réinséré au sein de la société. Et cela implique un mécanisme de prise en charge médicale par la prise de certains psychotropes qui permet à ce que favorise le sevrage Et c'est vrai, c'est le fait tout simplement de pouvoir arrêter de consommer la drogue. Et il y a également une partie de prise en charge psychologique qui implique des thérapies qui amènent la personne à pouvoir conditionner son psychisme ou son cerveau aux conditions normales de vivre en société ou en harmonie ou en bonne interaction avec tous les autres au sein de sa famille, au sein de son environnement, à l'école et tout ailleurs. Mais dans le contexte de Bounia, cela implique une intervention psychosociale du gouvernement provincial parce que la cause principale est réellement due à la sécurité et bien évidemment conditions de vie socio-économique. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permet à favoriser la réhabilitation ou la réinsertion psychosociale de ces enfants et ce qui nous permettrait de les récupérer, encore qu'il y a ces enfants qui sont encore en âge de scolarité et ces enfants doivent nécessairement réintégrer le processus scolaire pour continuer leur instruction. Implique notamment la responsabilité du gouvernement provincial.
Et en termes de solutions palliatives, parce que c'est une situation qui se vit avant que l'on ait une solution définitive, qu'est-ce que vous pouvez suggérer?
La plus bonne manière de suggérer, je crois que ici, il faut d'abord identifier la responsabilité de ceux qui peuvent apporter cette solution. Et comme je le disais tantôt, c'est le gouvernement provincial. Et il suffit de créer des internats ou des foyers sociaux dans lesquels on peut recueillir ces enfants, parce que ça implique une prise en charge. Il faut répondre à des besoins immédiats. Les besoins immédiats de ces enfants, c'est satisfaire leurs besoins physiologiques. Il faut que ces besoins physiologiques soient satisfaits et que dans l'immédiat également, qu'il y ait des premiers soins médicaux et des premiers soins psychologiques qui permettent à l'enfant de pouvoir favoriser les processus de ce sevrage. Aussi longtemps que cela n'est pas fait de manière directe, il sera difficile de pouvoir récupérer tant soit peu ces enfants parce que l'addiction y est, les besoins intenses, les besoins incontrôlables de consommer la drogue. Pour cela, il faut mettre les enfants dans des conditions où ils n'arrivent plus à se procurer de cette drogue-là, mais évidemment aussi, il faut qu'il y ait l'urgence de la prise en charge médicale et de la prise en charge psychologique. Parce que il faut aussi noter, lorsque le sevrage n'est pas fait correctement, cela peut aussi entraîner des conséquences traumatiques chez l'enfant et même amener l'enfant à vivre des stress post-traumatiques. Donc, c'est un peu comme l'enfant avait arrêté une bonne situation de vie qui l'a fait basculer directement dans la toxicomanie et l'effet de la toxicomanie, il faut prendre en compte tous les facteurs qui nécessitent en fait sa stabilité émotionnelle et psychologique. Et sans cela, ça peut rendre encore les enfants plus traumatiques et ça peut même encore empirer le mécanisme en fait de la prise en charge médicale et psychologique. Mais la première condition qui s'impose, c'est mettre ces enfants en dehors des conditions qui favorisent la prise de la drogue, et notamment dans un internat, où ils sont pris en charge physiologiquement directement, et la prise en charge médicale et psychologique viennent, même si c'est petit à petit, mais au moins il faut que les bases soient bien lancées et bien faites pour que ces enfants puissent bien suivre une bonne réinsertion sociale et une bonne réhabilitation sociale.
Monsieur Nera Chanera, je rappelle que vous êtes psychologue social et des organisations. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine du jour qui vous a parlé de la situation des enfants déplacés dans la ville de Bounia et des conséquences qui les guettent en consommant de la drogue. Tous les détails sur ces sujets sont à retrouver sur les sites de Radio Capi, www.radiocapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Ce magazine a été coproduit par Jeff Opela, Grévis Salomo, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Grace Mvezolo, Rachel Kessembango, André Kitenge et Stanislas Diomi. Gisèle Cage était à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga avec une présentation de Sarah Sumbela. Ciao et à la prochaine.